Jean-Gilbert, Rosanie, vous êtes les tout premiers ce matin. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à la belle-mère. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Manon. Que Dieu te bénisse. Dieu la bendiga, hermana Susana. Toujours un plaisir de vous avoir tous et chacun parmi nous pour notre temps de bénédiction matinale. Bonjour à mon père, à ma mère. Bonjour Pascal, bonjour Gabriel et Jean-Bernard. Que Dieu vous bénisse tous trois. Ça va bien, Pascal. J'en parlerai tout à l'heure, mais ça va bien. Je suis présent parmi vous. Je m'attendais à être parmi vous et j'en suis très content. Donc, jusqu'on arrivera proche de 8h30, je partagerai un peu comment s'est passé l'examen hier. Bonjour Lucie, que Dieu vous bénisse. Si vous parlez à Lynn, vous la saluez de ma part. On priera pour ta maman, Manon. Que Dieu la fortifie. S'excuse du bruit, et je ne parle pas de Néma qui est en train de s'abreuver, mais je parle des tracteurs qui passent devant la maison. Ça peut faire un peu de bruit, donc si vous l'entendez à travers le micro, on s'en excuse. Mais c'est hors de mon contrôle. J'aimerais bien avoir un peu plus de quiétude pour la bénédiction matinale, mais pour quelques années, c'est comme ça que ça va se passer devant chez nous. Donc, on est rendu jeudi le 27 mai déjà. Bientôt un autre mois qui sera terminé. Alors, vous avez entendu les annonces gouvernementales des derniers jours. Montréal, je dois avouer que je m'y attendais un peu. Montréal reste en zone rouge au moins jusqu'au 7 juin. C'était un peu prévisible. Le gouvernement avait dit, et la santé publique avait dit que la plupart des régions passeraient en zone orange. Mais ça voulait dire qu'il y avait donc des régions pour lesquelles on avait des hésitations. Et comme Montréal représente pratiquement la moitié de la population de la province, il était facile de s'imaginer que Montréal resterait en zone rouge. Par contre, les chiffres vont dans le bon sens et on espère donc que le 7 juin, on pourra effectivement, comme les autres régions, passer en orange. Et à ce moment-là, pour nous, ça va changer la capacité d'accueil de notre local. On va passer de 25 personnes autorisées à 100 personnes, ce qui sera déjà un bon départ. Donc, on va prier que ça continue en ce sens. Merci la belle-mère. Shalom à vous aussi. Bonjour Denise, que Dieu vous bénisse. Et il y a la deuxième Denise qui se connecte juste après vous ce matin. Donc c'était Denise Gaudreau en premier. Et la deuxième c'est Denise Saint-Louis, donc avec Gérard bien entendu. Donc bonjour Denise, bonjour Gérard. Bon, mais bien content que vous n'entendiez pas les tracteurs, c'est juste moi qui les entends, donc ça va. Merci Guy pour les salutations, sois béni toi aussi. Je transmettrai tes salutations à Daphné. Elle est au travail, bien entendu, ce matin. Bonjour à ceux qui se connectent via la page Internet de l'Église. Bonjour Sylvie. Parmi ceux qui se connectent via l'autre moyen de connexion, on a toujours nos habitués et habituels de qui on se réjouit énormément. Donc bonjour à la sœur Concepcia, bonjour à la sœur Livy, à la sœur Dorothy, à la sœur Dora, au frère Gilles, au frère Claude Bernard, assurément Manon Tessier, qui d'autre, la sœur Lise, qui doit avoir hâte que les beaux jours arrivent et que le 100 personnes soit autorisé à l'église. Donc elle va pouvoir venir en vélo jusqu'à l'église et on s'en réjouit nous aussi, bien entendu. Donc logiquement le 7 juin, si ça continue de la sorte. Bonjour à la sœur Samek, que Dieu vous bénisse. Bonjour Marie-Huguette, sois bénie. Bonjour Yolaine, coucou à toi aussi, je suis là moi aussi, sois bénie. Bonjour Jocelyne, bonjour Jacques, soyez tous de bénis. Donc ce matin, on continue notre étude dans Job au chapitre 23, la deuxième partie du verset 12. Donc vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles. On va lire bien sûr tous les versets qui étaient de mise pour cette semaine, donc du verset 10 au verset 12. Mais on étudie la deuxième et dernière partie du verset 12 ce matin. Bonjour Jen, que Dieu te bénisse. Tu passeras le bonjour à Sydney aussi. Bonjour Rachel et bonjour aux sœurs qui sont connectées avec toi. Nos bien-aimés Mona, Chantal, Ocilia, que Dieu les bénisse. Toujours un plaisir de vous savoir avec nous, fidèles matin après matin. Dios la bendiga, hermana Argelia. Buen día a usted también. Buen día. Que Dieu vous bénisse. Jimmy J, God bless you. Content que tu sois là ce matin encore. Un peu plus frisqué pour marcher à l'extérieur pour toi aujourd'hui. Rien de terrible par contre, là, mais un peu plus frisqué malgré tout que les derniers jours. Bonjour Farley. Bonjour à ta maman Marie-André. Bonjour Didier. Alors, simplement vous dire avant qu'on ne prie, pas de marche aujourd'hui, c'est la grève, Jimmy. Oui, effectivement, j'avais oublié. Donc, simplement pour vous dire un petit bilan pour la journée d'hier. Donc, effectivement, j'ai été à l'hôpital hier après-midi pour subir ce qu'on appelle une gastroscopie. Donc, c'est une caméra qu'on rentre depuis la bouche, qui descend le plus bas profond qu'on peut, donc un peu après ce qui devrait être la zone de l'estomac. Mais vous savez que je n'ai plus d'estomac, donc j'ai pas d'œsophage non plus, là c'est une espèce de tube que j'ai maintenant. Donc voilà, ils sont allés, j'ai pu faire l'examen sans sédation. Donc j'étais très content. Je pensais que ces temps-ci, je suis un peu fatigué, donc je me disais, bon, probablement je vais être obligé de prendre la sédation. Je m'étais résolu à le faire avec l'injection. Et puis, durant l'après-midi, un peu avant que j'arrive à l'hôpital, je me disais, ah non, j'ai vraiment pas envie de la sédation. Je préfère le faire à vif, on va dire. C'est désagréable, mais c'est pas nécessairement douloureux en soi, mais c'est assez désagréable. Ça fait pomper le cœur pour sûr. Et je me suis dit, bon, ben, je vais tenter le coup. Donc, quand l'infirmière est arrivée pour faire tout le préambule, questionnaire et autres, je lui ai demandé si je pouvais le faire, si je pouvais faire l'examen sans sédatif. Et elle m'a dit, oui, pas de problème. Donc, quand je suis arrivé, c'était parce que c'était un nouvel, c'était à l'hôpital avec le chirurgien et non pas là où j'avais autrefois la chimiothérapie. Donc, j'ai vu un médecin que je connaissais quand même. C'est elle qui m'a reçu, qui a fait l'examen. Et puis, elle aussi, elle acceptait effectivement que je le fasse sans sédation, puisque sur une dizaine d'examens que j'ai fait, une seule fois, la toute première fois, je l'ai fait avec sédatif, puis les autres fois, je l'ai fait, on va dire, sans rien, disons. Donc, ça, ils ont passé la caméra, ça dure environ une quinzaine de minutes. Ils font des biopsies, donc des prélèvements en même temps. Et puis, ils sont descendus vraiment le plus bas qu'ils pouvaient. Et puis, tout est beau. Donc, le docteur disait que je vais avoir les résultats des biopsies d'environ 6 semaines, mais qu'il n'y a vraiment rien d'inquiétant, que tout est vraiment beau à l'intérieur. Donc, voilà. Et pour vous dire franchement, c'est deux choses. Un, je le fais sans sédatif et je vous conseille à tous de le faire avec sédation si vous avez à le faire. Je le fais sans sédatif parce que je n'aime pas être conduit en voiture. Donc, logiquement, après ça, tu n'as pas le droit de conduire pendant 24 heures et puis je déteste être conduit. Donc, je le fais pour être plus autonome après, d'une part. Deuxièmement, je le fais aussi pour entendre davantage les commentaires des médecins. Quand vous êtes endormi ou pendant l'examen, ils réagissent de certaines façons. Donc, ça vous permet d'avoir une meilleure idée. Donc, je le fais pour ça. Et puis voilà. Donc, tout est beau. Et puis, foncièrement, ça a été peut-être la fois où ça a été le plus facile de la dizaine de fois que j'ai eu cet examen depuis 5 ans. Donc, ça a été vraiment, vraiment facile. Mais inconfortable, oui, certes, mais tout était beau. Donc, l'examen a duré 15 minutes. À l'intérieur d'une heure, j'étais sorti de l'hôpital. Et j'étais en route vers la maison. Donc voilà les bonnes nouvelles. Et donc je suis de retour avec vous ce matin. Alors prions pour remettre ce moment d'exhortation entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion qu'on a encore une fois de te célébrer. Et pour moi Seigneur de proclamer ta parole. C'est toujours une joie et un honneur Seigneur de prendre ces instants avec tes enfants, avec ton peuple pour échanger un peu, partager les richesses et les bontés de ta parole. Donc nous prions Seigneur que tu ouvres à nous tous notre entendement, notre compréhension et que tu puisses Seigneur continuer à nous instruire. Assurément aujourd'hui tu vas nous mettre au défi, assurément. Tu vas peut-être même nous bousculer avec ta parole, mais nous la recevons comme étant vérité, une nécessité absolue pour notre être et comme étant une bénédiction de ta part qui encore aujourd'hui prend soin de chacun d'entre nous. Alors étends ta main, touche-nous, permets-nous, Seigneur, que nous puissions pleinement saisir ces paroles et que tu puisses, Seigneur, y récolter ultérieurement un fruit qui te sera agréable dans notre vie ici-bas sur terre, mais jusque dans l'éternité. Alors j'appelle ta bénédiction sur ma sœur et sur mon frère. Nous t'avons prié dans le plus précieux, le plus merveilleux, le plus grandiose des noms, le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous t'avons prié en ton nom, Seigneur. Amen. Alors, je lis pour vous les versets qui nous ont servi de thématique cette semaine dans Job au chapitre 23, du verset 10 au verset 12. Vous savez que c'était le verset 12 était le verset clé, ou le premier verset, dirons-nous plutôt, dans l'enseignement du pasteur André ce dimanche. Et on a tout simplement repris cette thématique de la volonté de Dieu, ou de faire la volonté de Dieu, comme étant thématique pour cette semaine. Alors je lis pour vous Job 23 du verset 10 au verset 12 et je répéterai le verset 12 par la suite. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Je répète deux fois même le verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et la phrase qu'on étudie précisément ce matin, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai élargi un peu mes caractères pour être sûr de bien voir. Voilà. Alors, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. En fait, comme on va le voir ce matin, je vous dirais qu'il y a le texte en français, mais qui diffère quand même du texte en hébreu. Très souvent, le côté imagé se retrouve davantage dans la version hébraïque, donc pour l'Ancien Testament, et dans la version grecque pour le Nouveau Testament. Mais dans ce cas-ci, ce serait plutôt la version en français qui est plus imagée cette fois-ci. Donc, on va vite expliquer la version en français. Après ça, on passera donc à l'explication plus détaillée du texte en hébreu. En français, il va dire « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » J'ai fait plier ma volonté. La question pour toi et pour moi par rapport à ce texte en français, parce que vous ne trouvez pas la même version en espagnol, ni en anglais, parce que j'ai vérifié. En français, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. La question pour toi, la première, c'est ma volonté est-elle assujettie à celle de Dieu? Faire plier sa volonté aux paroles de la bouche de Dieu, ça veut dire que dans la balance, il y avait la volonté propre de Job et la volonté de Dieu ou les oracles de Dieu. Et dans la balance de sa vie, il a décidé délibérément de plier sa volonté, d'assujettir sa volonté à la pensée même de Dieu. Alors l'enseignement pour toi et pour moi est à savoir, est-ce que ta volonté, est-ce que ma volonté est effectivement assujettie à celle de Dieu? C'est bon d'y réfléchir par soi-même et c'est bon aussi de demander à Dieu qu'est-ce que lui voit sur cette question, qu'est-ce que lui donne comme réponse, et qu'il soit aussi clair avec toi et avec moi, où il peut nous dire effectivement, mon fils, voilà, ta volonté est assujettie, mais dans tel point, ou dans tel secteur, dans tel domaine de ta vie, j'ai encore besoin de plus de place, j'ai encore besoin que tu priorise différemment les choses afin que je sois effectivement la première priorité dans tous ces domaines-là. La deuxième question, si ta volonté est assujettie à celle de Dieu, est-elle assujettie délibérément? Est-ce que c'est un choix que tu as fait de plier ta volonté? Parce que dans l'expression « ma volonté », j'ai fait plier ma volonté, il y a une question de délibérer, il y a une question de volonté qui nous est exprimée ici. C'est comme si Job disait « j'ai réfléchi, j'ai pris la décision, je suis maître de cette décision et j'ai décidé que ma volonté passerait après celle de Dieu ». Alors le questionnement pour toi, est-ce que la volonté de Dieu que tu places devant la tienne ou la soumission que tu offres à la volonté de Dieu, est-elle une soumission délibérée ou as-tu simplement obtempéré parce que la situation l'imposait, parce que les circonstances ont été placées de force par Dieu? Foncièrement, ça t'amène à une autre question, à savoir si oui ou non tu as délibérément soumis ta volonté. Ça t'amène aussi à te poser la question, à savoir est-ce que je suis en train de subir la volonté de Dieu ou je l'ai embrassée? Quand les choses vont bien et quand la volonté de Dieu va en accord avec ce qui nous plaît à nous, il est alors très facile d'accepter la volonté de Dieu. Mais quand la volonté du Seigneur va dans une autre voie, va par un autre chemin, emprunte d'autres sentiers que ceux qu'on aurait voulu, à ce moment-là, il se pose la question à savoir est-ce que je vais subir la volonté de Dieu ou je vais volontairement m'y soumettre. Certains chrétiens vivent leur vie chrétienne et vivent les commandements, les préceptes, la volonté de Dieu comme un tordage de bras. On dirait qu'ils sont toujours incapables de plier devant Dieu sans que celui-ci n'use de force. Foncièrement, Dieu n'use pas de force. Foncièrement, c'est ta volonté, oui ou non. Choisis aujourd'hui qui vous servirez dans le passage qu'on avait étudié là, il y a quelques semaines dans Josué au chapitre 24. Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Si vous ne jugez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne jugez pas profitable pour vous de servir l'Éternel, alors choisissez si vous servirez les dieux que vos pères ont servis ou les dieux que les Amoréens servaient avant votre arrivée à Canaan. Mais Josué va dire, pour moi et pour ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous avons pris la décision de nous soumettre à la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, trois premières questions. Ma volonté est-elle assujettie à celle de Dieu? Premièrement. Deuxièmement, ai-je délibérément soumis ma volonté à Dieu? L'ai-je fait de mon propre gré, de mon propre chef, de ma propre initiative? Et troisièmement, suis-je peut-être, si la volonté de Dieu m'a été comme un tordage de bras, et alors est-ce que je suis en train de subir la volonté de Dieu? J'espère que tu ne subis pas la volonté de Dieu, mais que tu l'as embrassée, parce qu'il n'y a pas de meilleure option, il n'y a pas de meilleur cours pour ta vie que de suivre la volonté absolue de Dieu. Si on passe maintenant au texte grec, au texte hébreu plutôt, le texte, lorsqu'on le traduit littéralement, et en espagnol, je crois, et en anglais, vous avez la bonne traduction dans la terminologie, dans l'étymologie des termes hébreux qui sont utilisés. Ce qui va être dit, en fait, c'est plus que mon nécessaire, j'ai estimé les paroles de sa bouche. Alors, j'ai estimé les paroles de sa bouche comme étant plus important que mon nécessaire. Textuellement, c'est ça que le texte va dire. En français, on a dit « j'ai fait plier ma volonté », mais le terme de volonté ici, ça serait plutôt par rapport à ce que j'estime comme nécessaire pour ma vie, j'ai trouvé comme plus important, j'ai estimé comme plus lourd, comme plus pesant pour ma vie, comme plus prioritaire pour ma vie, les paroles qui sortent de sa bouche et non mes propres choses nécessaires. Alors, ce qui est nécessaire, c'est le terme « hok » en hébreu, « h-o-q », « h-o-q », donc « nécessaire », qui nous parle de trois items hein, ou de trois types de nécessités ou trois types de choses qui nous sont nécessaires. Premièrement, on nous parle des choses dues. Donc, Job va dire, au niveau de ce qui est nécessaire, au niveau des choses qui sont dues, qui me sont dues, j'ai trouvé malgré tout que la volonté de Dieu était plus importante. J'ai trouvé les paroles qui sortent de sa bouche comme plus nécessaires, comme plus lourdes que les choses qui m'étaient dues. Quand on parle des choses dues, un synonyme serait le salaire, la rétribution. Donc le Seigneur dit, si tu travailles, l'ouvrier mérite son salaire. Donc si tu œuvres pour Dieu, nécessairement, Dieu doit prendre soin de toi. Donc dans ces choses qui te sont dues, Job disait, je préfère même mettre de côté ces choses que j'estime comme m'étant dues pour me concentrer et me consacrer. J'ai fait le mix des deux mots. Donc pour me concentrer et me consacrer aux paroles qui sortent de sa bouche. Donc pour toi, qu'est-ce qui compte davantage? Et je vous dirais que régulièrement, lorsqu'on entend certains croyants parler, et je suppose que ça arrive dans la vie à chacun d'entre nous, mais parfois on a l'impression dans nos propos, dans les paroles qu'on prononce, que les choses qui nous sont dues sont même plus lourdes, plus pesantes dans la balance que les paroles de Dieu. Job va être très clair, il dit, voilà, même dans les choses que j'estime qui me sont dues, je veux prendre la décision de les mettre de côté, de les juger comme moins lourdes, moins pesantes dans la balance que les paroles qui sortent de Dieu. Alors pour toi, un autre questionnement ce matin, quelle est ton attitude par rapport aux choses qui te sont dues? Est-ce que tu estimes que tant que ces choses qui te sont dues ne te sont pas données, à ce moment-là, Dieu est en retard de paiement? Dieu est en retard de bénédiction, Dieu est infidèle à sa parole. Tant que tu n'as pas reçu les choses qui te sont dues, à ce moment-là, tu refuses d'avancer, tu refuses de te soumettre à la volonté de Dieu. Ou tu t'y soumets, mais avec l'attitude du tirage d'oreilles et du tordage de bras et avec une grimace au visage. Job est un homme intègre. Et puisque Dieu dit lui-même qu'il ne s'est trouvé aucun homme intègre comme lui sur la surface de la terre, à ce moment-là, ça veut dire que l'attitude volontaire, délibérée, l'attitude où Job dit « les choses de Dieu sont plus importantes que les choses qui me sont dues », à ce moment-là, si Job est effectivement intègre comme Dieu dit qu'il l'est, alors il y a une sincérité réelle dans les propos de Job. Parfois, nous aussi, on dit que les choses qui nous sont dues sont moins importantes que les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et pourtant, dans la pratique, tant que ces choses dues ne nous sont pas données, ben là, on commence à maugréer, on commence à se plaindre, on fait la baboune en bon québécois. Donc, on tire la mine ou on fait la mine déçue. Abattu jusqu'à ce qu'on reçoive effectivement notre salaire. Et je me demande si Dieu, à l'occasion, ne retarde pas le salaire simplement pour nous prouver des choses à nous-mêmes et nous dire, regarde Florent, je retarde ce qui t'est dû et voilà l'attitude que tu as. Une attitude où tu commences à douter de ma fidélité, tu commences à douter de ma bonté, tu commences à douter de ma justice. J'ai juste ralenti le processus, j'ai juste retardé un peu ce qui t'était dû et voilà ce que toi tu m'offres, un visage conscrit, un visage défait, un visage abattu face à cette attente un peu plus longue qui est la tienne. Donc, un bon questionnement pour toi et pour moi. La deuxième chose que représente le nécessaire et qu'on retrouve dans le terme « hoc » qui remplace « nécessaire », plus que « mon nécessaire », j'ai estimé les paroles de sa bouche. Le nécessaire « hoc » va aussi vouloir dire non seulement les choses dues, mais les choses attendues. Des fois, on fait des choses en espérant que. Ce n'est pas nécessairement un salaire. Mais là, on tombe dans ce qui est la récompense, dans ce qui est le bonus, dans ce qui est le cadeau. Mais je pensais que Dieu était bon. Je pensais que Dieu prendrait soin de moi. Je pensais que Dieu pourvoirait. Je pensais que ceci, je pensais que cela. Mais s'il m'aimait vraiment, alors il m'accorderait toute la santé nécessaire. S'il m'aimait vraiment, alors il m'accorderait toute l'aisance nécessaire. S'il m'aimait vraiment, à ce moment-là, je n'aurais pas toutes ces inquiétudes par lesquelles je passe actuellement. Il pourrait m'en épargner. Il pourrait m'éviter ces tracas. Lorsqu'on parle du nécessaire comme chose attendue, on parle donc du bonus, des cadeaux. J'ai prié pour que cette personne vive encore lorsqu'on a un proche que Dieu vient ramener à la maison, vient ramener vers lui. Tout ce processus de deuil qui est normal et qui est normal dans la vie, tout simplement de se sentir déchiré. Mais lorsque ce processus vient jusqu'à refuser la volonté de Dieu, jusqu'à dire « je ne suis pas d'accord que le Seigneur ait pris telle ou telle personne d'à côté de moi, je ne suis pas d'accord que Dieu ait enlevé telle personne d'à côté de moi » et qu'on tombe dans un deuil perpétuel, ad vitam aeternam, et pour le restant de notre vie, on est incapable de se réjouir parce que c'est comme s'il y avait une partie de nous qui nous avait été arrachée. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est aussi accepter que Dieu fait sa volonté comme il le veut. Et certains d'entre nous, on va prier pour la guérison de quelqu'un, mais la maladie peut être à l'occasion la façon que Dieu utilise pour amener quelqu'un dans l'éternité. Lorsque le clepsydre ou lorsque le sablier du décompte ou des jours de la vie de quelqu'un vient à terminer. On aimerait que Dieu rajoute du sable, mais parfois Dieu ne rajoute pas du sable. Et lorsqu'on est confronté à son départ à ce moment-là, et c'est dans le pire des cas que j'ai rencontré dans mon ministère, c'est effectivement lorsque quelqu'un refuse la mort d'un bien-aimé et il dit « mais je pensais que Dieu était bon ». Je pensais que Dieu était juste, je pensais que Dieu prendrait soin de moi, je pensais que Dieu allait écouter parce qu'il m'aimait. Mais pensez une chose, si cet homme ou si cette femme qui est décédée ou a servi le Seigneur, est un enfant de Dieu, il n'y a pas de meilleur cadeau que de se retrouver dans la maison de Dieu et dans la présence de Dieu pour l'éternité. Certes, pour nous qui restons derrière, c'est douloureux. Mais savoir que cette personne est maintenant dans le plus merveilleux des endroits, dans la présence de son Seigneur et de son Sauveur pour l'éternité, je peux vous garantir une chose, cette personne qui est maintenant dans la présence de Dieu, vous lui offririez tout l'or de cette terre, tout l'argent de cette terre, toute la gloire de cette terre, et elle refuserait tout cela pour rester encore dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit, il n'y a pas de meilleur endroit que d'être dans la maison de l'Éternel, donc d'habiter pour l'éternité dans la présence parfaite de Dieu. Donc pour toi, la deuxième question, les choses dues, est-ce que ça devient plus lourd que la parole de Dieu même? Les choses attendues, les récompenses, les bonus, les cadeaux, lorsque tu ne les reçois pas, est-ce que tu es frustré à un tel point où tu négliges les paroles qui sortent de sa bouche? Et enfin, comme troisième point, les choses nécessaires, hoc, veut aussi dire les choses prescrites, les choses qui sont nécessaires à la vie. Dans ça, on parle de quoi? De ça, on parle de la santé, on parle d'un certain niveau peut-être de richesse, où tu dis, mais pour faire ma vie correctement, ça me prendrait telle et telle chose. Et je crois là encore que Dieu a l'occasion peut nous priver d'un certain bien-être. Dieu, à l'occasion, peut nous priver. Je prends une gorgée. D'une certaine aisance, tout simplement pour nous amener à expérimenter ou nous amener à comprendre les limites qu'on a dans notre association avec lui et dans notre dévouement par rapport à lui. Si la santé t'est enlevée demain matin, es-tu encore en train de servir Dieu ou pas? Vous savez, cette expérience, et je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais cette expérience où le lendemain matin de mon diagnostic de cancer, j'ai dit à Dieu, tout est correct, Seigneur, fais comme il te plaît, tout est OK, pour moi, c'était une façon de dire, Seigneur, j'ai dit hier que tu étais bon, j'ai dit hier que je te faisais confiance, j'ai dit hier que je te suivais ad vitam aeternam. Aujourd'hui, où un diagnostic terrible me tombe sur la tête, je ne veux pas changer d'idée. Je maintiens mon choix comme quoi ta volonté est plus importante que ma volonté. Et si tu veux utiliser la maladie pour X chose à transformer dans ma vie ou X chose à accomplir à travers ma vie, c'est correct, Seigneur. Dans le cas de ma maladie, je peux vous dire que je rencontre des gens et je témoigne à des gens que je n'aurais jamais rencontrés. N'eût été la maladie, encore hier, l'infirmière qui faisait tout le préambule de mon examen, j'ai pu lui raconter, elle ne me connaissait pas, donc j'ai pu lui raconter toute l'histoire de ma maladie. Et bien entendu, si vous me demandez de parler de ma maladie, je vais parler de Dieu. Donc, je lui ai parlé de ce que Dieu avait accompli, de ce que Dieu faisait encore jusqu'à aujourd'hui dans ma vie. Lorsque je suis arrivé et j'ai vu quel médecin allait me faire l'examen, c'était une bras droite. Je ne sais pas si ça non, un bras droit. Une dame, mais un bras droit de mon chirurgien. Une dame qui travaille en collaboration étroite avec mon chirurgien, qui me connaît très bien, qui connaît très bien mon dossier. Et à un moment donné, elle-même a eu à se manifester avec l'infirmier qui l'assistait en disant, « Non, non, on connaît ce patient, puis on sait ce qui s'est passé. Tu n'as rien à craindre avec ce qu'on va lui faire. » C'est un habitué, mais ce faisant, elle est obligée aussi de parler de mon histoire. Et à ce moment-là, c'est elle-même qui témoigne. Moi, j'ai juste à rajouter, « Dieu a été bon. » Et ce faisant, ben, cet homme-là comprend que ce qui s'est passé est tout à fait anormal et que Dieu a été bon. Il y a des choses comme ça que Dieu a fait dans ma vie qui se sont passées suite à des circonstances moins agréables, moins faciles. Donc parfois la disette, parfois le deuil, parfois la maladie sont des circonstances que Dieu va utiliser pour se glorifier et que Dieu va utiliser comme des occasions de témoignage. Je disais une fois à quelqu'un, ça aurait été fantastique effectivement que Dieu me guérisse de façon instantanée. Ça aurait été bien qu'un prédicateur de je ne sais trop où vienne m'imposer les mains, fasse un oracle sur ma vie et que du jour au lendemain, il n'y ait plus de tumeur. Ça m'aurait évité l'hôpital, ça m'aurait évité les chirurgies, ça m'aurait évité la chimiothérapie. Mais comprenez-vous qu'en évitant la chimiothérapie, la chirurgie, les différents examens, ça fait aussi en sorte que je ne rencontre jamais les personnes que j'ai rencontrées à travers toute cette maladie. Alors quand je regarde ça aujourd'hui, je dis « Seigneur, les choses qui m'étaient dues sont moins importantes que ta volonté. Les choses que j'attendais sont moins importantes que ma volonté. Les choses prescrites, les choses qui me semblent être nécessaires, entre guillemets, à la vie, me sont moins importantes que ta parfaite et unique volonté. » Aujourd'hui, avec du recul, je peux comprendre certains de ces faits et c'est cette expérience que je partage avec vous ce matin. Dernier point rapidement, estimer les paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche et dans la traduction hébraïque, plus que mon nécessaire, j'ai estimé les paroles de sa bouche. J'ai rendu plus lourdes les paroles de sa bouche que ce qui m'était nécessaire. La question pour toi et pour moi ce matin, quelle est l'estime que tu portes à l'égard des paroles que Dieu prononce? Quelle est l'estime que tu as par rapport à sa parole écrite, le Logos, la Bible? Quelle est ton estime par rapport à celle-ci? Est-ce qu'effectivement, elle est lourde? Est-ce que tu la prends comme ton mode de vie, comme ton manuel de l'utilisateur? Est-ce que tu le prends comme ton mode d'emploi? Est-ce que tu le prends comme la vérité absolue de Dieu qui nous est révélée? Quelle est l'estime que tu as par rapport à cette parole? L'estime que tu as par rapport à cette parole va aussi indiquer très souvent la fréquentation que tu as par rapport à cette parole. Si tu estimes beaucoup une chose, tu vas y revenir régulièrement. La Bible nous dit que là où est ton trésor sera aussi ton cœur. Donc, quand il y a quelque chose que tu aimes, ton cœur se tourne vers ça et tes pensées suivent aussi les choses et vont vers cet item. Disons que tu t'achètes une nouvelle voiture, et ça, c'est peut-être plus le cas des garçons que des dames, mais le gars qui s'achète sa toute première voiture, pendant des semaines, il ne pense qu'à sa voiture. Elle est très reluisante, elle est très belle, elle sent bon le neuf et tout ça, mais régulièrement, même dans la nuit, il se réveille. Il dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre soin de cette voiture? Comment je peux la prendre encore, je peux la rendre encore plus luisante? Comment je peux améliorer son fonctionnement? Quelles sont les choses que je peux ajouter à cette voiture pour la rendre encore plus belle et rendre l'expérience encore plus merveilleuse? Donc, ta pensée revient vers cette nouvelle voiture. Qu'en est-il de la parole de Dieu? La parole de Dieu est-elle le plus grand des trésors que tu as trouvé sur cette terre? La parole de Dieu est-elle effectivement l'item le plus précieux de ton existence? Se fait-il, par ce fait, y retournes-tu régulièrement, constamment vers la parole de Dieu? Es-tu constamment en train de te préoccuper par rapport à une situation en te disant, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse par rapport à cette situation? Qu'est-ce que sa parole me dit par rapport à ce fait? Est-ce la première chose qui vient à ton esprit lorsqu'une situation se présente devant toi, ou c'est comment je peux essayer de me débrouiller, de me dépêtrer par moi-même? Quel est ton réflexe, parole de Dieu ou moi-même? Quel est ton réflexe? Chercher la volonté de Dieu dans sa parole ou chercher à t'en sortir par tes propres moyens et par l'expérience des hommes à travers Internet, à travers les livres, à travers ceci ou cela. Quel est le plus lourd, parole de Dieu ou se déprêter par soi-même? Et dernière question, j'ai estimé les paroles de sa bouche. Est-ce que tu as estimé toutes les paroles de sa bouche? Et quand on parle de paroles qui sortent de la bouche de Dieu, parole, c'est le terme émer, émer, E-M-E-R, émer, E-M-E-R. Pour ceux qui tout à l'heure utilisaient le terme estimé, c'est le terme tsaphan, tsaphan, T-S-A-P-H-A-N, tsaphan, estimé, T-S-A-P-H-A-N, qui veut dire cacher, chérir, emmagasiner, conserver. Donc, est-ce que tu emmagasines, est-ce que tu chéris, est-ce que tu conserves la parole de Dieu? Et là, j'étends plus loin, est-ce que tu aimes, est-ce que tu chéris, est-ce que tu caches, est-ce que tu emmagasines, est-ce que tu conserves toutes les paroles de Dieu? Et lorsqu'on parle des paroles de Dieu, émer, E-M-E-R, on parle des déclarations de Dieu, du mot, des promesses, des commandements, des dires. Donc, trois ou quatre grands groupes. Est-ce que tu chéris et tu conserves les déclarations de Dieu? Lorsque Dieu dit « voici ce que j'aime, voici ce que je veux, voici ce qui va arriver », lorsqu'il y a une prophétie qui est marquée, la Bible nous dit que ceux qui auront aimé l'avènement de Christ vont recevoir une couronne toute particulière. Donc, est-ce que tu aimes l'avènement de Christ jusqu'à voir les choses arriver, jusqu'à te préparer à l'arrivée du Seigneur, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit à la fin de tes jours? Est-ce que tu te prépares à cette rencontre imminente que tu as avec Dieu? Est-ce que tu estimes les jugements de Dieu lorsqu'il dit « voici, ceci est péché » ? Est-ce que tu dis « effectivement, puisque Dieu l'a déclaré péché, malgré tout ce que la société pourrait dire, puisque Dieu l'a déclaré péché, alors moi aussi je le considère comme péché » ou tu tends à dire « ouais, mais Seigneur, ça c'était autrefois, aujourd'hui voici ce que tout le monde pense ». Ce qui est important, comme le pasteur André le disait dimanche et le dit régulièrement, c'est pas ce que nous on pense, c'est pas ce que le pasteur André pense, ou en l'occurrence pour moi, c'est pas ce que le pasteur Florent pense. C'est ce que Dieu pense et ce que la parole de Dieu nous indique comme pensée de Dieu. Alors, est-ce que tu estimes les jugements de Dieu comme plus importants que tes propres jugements? Est-ce que tu estimes les promesses de Dieu comme plus importantes que tes volontés et tes désirs? Et enfin, est-ce que tu estimes les désirs de Dieu? Parce que dans la parole de Dieu, on nous exprime des déclarations, on nous exprime des jugements, on nous exprime des promesses et on nous exprime aussi les désirs même de Dieu. Alors, ces désirs de Dieu sont-ils prioritaires dans ton existence? Alors, ce matin, la grande question pour toi et pour moi, et on conclut là-dessus, est-ce que tu as laissé de côté, est-ce que tu es prêt à laisser de côté ce que tu appellerais ton nécessaire, tes nécessités, pour les nécessités de Dieu, pour la volonté de Dieu? Est-ce que dans la balance, tes désirs, tes nécessités, tes besoins, est-ce qu'ils sont prioritaires ou Dieu est-il prioritaire? Tes choses à toi, c'est redondant, mais je le dis malgré tout pour que vous compreniez. Vos choses à vous, tes choses à toi, pour que ce soit très très clair pour toi. Tes choses à toi, dans la balance, face aux priorités de Dieu et face à la parole de Dieu, lesquelles pèsent plus lourd, toi ou les choses de Dieu? Tes choses ou les choses de Dieu? Il n'y a que toi, et encore là, le Seigneur plutôt, qui peut révéler justement ces choses. Et je prie que tu aies la sagesse de te tourner vers Dieu. Aujourd'hui, oui, mais aussi régulièrement pour dire, Seigneur, où est-ce qu'on en est dans mes priorités? Suis-je en accord avec ta parole? Suis-je effectivement dans ta volonté? Est-ce que j'ai accepté ta volonté ou je la subis? Est-ce que j'ai accepté ta volonté comme l'ayant embrassée ou c'est un bras qui m'est tordu? Voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, merci Seigneur pour mon frère et ma sœur. Bien des questions à se poser aujourd'hui, foncièrement regroupées sous une seule étiquette, ma volonté ou la volonté de Dieu, mes besoins ou les attentes de Dieu, lesquelles ont primauté, lesquelles ont priorité sur mon existence. Seigneur, éclaire-moi, parle-moi. En toute limpidité, en toute simplicité, pour que s'il y a des choses à corriger, que celles-ci, Seigneur, je puisse délibérément et sciemment les corriger. Qu'il en soit ainsi aussi pour ma sœur et mon frère, que ta grâce nous soutienne et nous accompagne. Nous t'avons prié dans le plus précieux des noms, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, juste saluer quelques personnes que je n'ai pas encore saluées depuis tout à l'heure. Je remets mes lunettes. Je remonte un peu. Bonjour Yaoi, que Dieu te bénisse. Bonjour Cynthia, sois bénie. Bonjour Soraya, sois bénie. Bonjour Diane, soyez bénie. Bonjour Maggie, soyez bénie. Bonjour Julie, soyez bénis. Bonjour Consuelo, bonjour Jean, soyez bénis tous deux. Bonjour Myriam. Bonjour Donald, soyez bénis. Bonjour Suze, bonjour Mereste et la petite famille, soyez bénis. Voilà, c'était tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain, vendredi, dernier jour de la semaine, dernier jour de bénédiction matinale, et aussi journée de jeûne et de prière. Donc, on vous invite à être là dès 8h30 demain matin pour notre temps de prière. Merci à vous tous pour vos prières d'hier à mon égard. Comme j'ai dit, tout s'est bien passé. Pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, juste un peu avant l'exhortation de ce matin, j'ai fait le petit témoignage et petit bilan de la journée d'hier. Donc, vous pouvez toujours regarder ça en différé tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. On se retrouve demain matin, 8h30, pour notre prochaine bénédiction matinale. Au revoir tout le monde.